Souvent, pour dire les choses, mieux vaut les raconter. Rapporter simplement comme elles se sont passées. Comme elles vous sont venues, comment on les a vues, ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu. Un samedi, début mars, nous sommes allés à Chaux, c'est juste après Givert, plein de la frontière, où Michel et Janine nous avaient invités à venir chanter contre le nucléaire. La vallée était belle, et la Meuse gonflée, de toute l'eau de l'hiver, débordait dans les prés. Dès qu'on est arrivé chez eux sur la hauteur, ils ont montré au loin le premier réacteur. Une centrale périmée déjà après 15 ans, mais qui leur a appris à se méfier du vent. Ils ont montré surtout sur la rive opposée les prairies, les jardins, les bruyères, les vergers, où une nouvelle centrale 17 fois plus puissante doit venir se dresser immense et menaçante. Elle avalera la Meuse, la houille et l'eau noire, répandant alentour un éternel brouillard. Et le fleuve étouffé ira mourir au loin, apportant à ses rives inquiétude et chagrin. La vallée est si belle, quand tu vois l'éclaircie, le soleil dans les prés, passer entre deux pluies. Et là, chez nos amis, nous étions bien reçus, ça faisait bien 4 ans qu'on ne s'était plus vus depuis cette grève d'enrée où on s'était connus. Et ils en revenaient toujours à la centrale. Tu vois, nous, au départ, on voulait qu'elle s'installe plus loin, chez nos voisins, mais pas sur nos terrains. On ne se rendait pas compte. On ne savait pas très bien. Et puis, petit à petit, on s'en est inquiété. On s'est réunis, on s'est documenté. On a beaucoup appris, alors tout bascule. Les questions de chacun se nouent et s'articulent. Il y a eu cet accident qu'on nous avait caché. Pourquoi tant de mystères s'il n'y a aucun danger? Où s'en vont les poussières? Où partent les déchets? Pourquoi tant de cancers dans la pointe de Givet? Maintenant tu comprends, on n'en veut plus nulle part. Une grue a flambé l'autre soir. Il faut tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. S'il le faut, il y aura du pétard. La vallée est si belle et son large courant régulier, tranquille, rapide et puissant. Nous sommes redescendus dans le village de Pierre où l'ardoise mouillée brillait dans la lumière. Dans la salle des fêtes, on nous a présenté à ceux qui étaient là, aux gens du comité. Ils décoraient la salle pour la fête du soir. Première bataille, première victoire, plus de 60% de non au nucléaire dans le référendum de la semaine dernière. Et je ne sais pas pourquoi, ces visages réunis, dans cette salle un peu froide en fin d'après-midi, les visages attentifs écoutant la musique, les dessins des enfants amers ou ironiques, c'était tellement plus fort, tellement plus responsable, que ce pouvoir dangereux, brutal et misérable qui nous oblige encore à subir sa folie. Ceux qui font les plans ignorent tout ce qu'ils vont briser. Peu leur importe nos efforts, nos plaisirs, nos libertés. La vallée est si belle, les reflets, les fumées. On brûle encore du bois et dans bien des cheminées. Mais nous étions pressés, nous devions repartir. On ne peut pas rester, nous allons revenir. On s'en va, on y va, on repasse la frontière. Le soir va arriver, on descend par Astier. Jusqu'à Namur, la Meuse regorge de beauté. Comme déjà Christiane nous l'a si bien chanté. On emporte avec nous les images d'une journée. On passe dans les villages qui ignorent le danger. Tous ceux qu'il faut prévenir, alerter, informer. Il va falloir agir, réunir sans tarder. Tu rêvais d'une vie tranquille, une vie apaisée. Maintenant quelle bataille, où tu dois t'élancer. Tu rêvais d'une vie tranquille, une vie apaisée. Maintenant, quelle bataille où tu dois t'élancer.
Vous êtes donc bien à l'écoute de Fracture. On vient de s'écouter la chanson Balade Chou. Balade Chou, pardon. Balade Chou, donc une chanson du GAM, du groupe d'action musicale. Chanson sur l'antinucléaire et la lutte antinucléaire du côté du du nord, nord-est de la France, puisqu'on parle donc de Namur, et aussi, enfin, de même plutôt du continent européen, puisqu'on parle de la Belgique, de tout ça. Et avant de redonner la parole à Jean-Pierre sur la question du nucléaire, deux petites remarques, effectivement, sur ce qui a été dit, sur la question de la sécurité, et en fait, de comment est-ce qu'on est préparé aux alentours. En 10 ans, enfin, moi, ça fait une dizaine d'années que j'habite aux alentours de Poitiers, il n'y a jamais eu, effectivement, de protocole particulier adressé aux populations si jamais il y a un incident de type Fukushima, Tchernobyl ou Three Mile Island. Donc c'est vrai que de ce côté-là, la préparation, en tout cas, la population en est assez peu informée. Et sur la question en fait de tous ces petits incidents qui arrivent régulièrement là, qui ont pu avoir lieu en 2018, c'est pas nouveau en fait comme chose, puisque moi je me souviens d'un article qui devait dater de 2012 ou 2013, je crois, où la centrale avait fait un démenti expliquant clairement qu'il n'y avait pas de problème culturel de sécurité au sein de la centrale de Civaux. Mais donc comme quoi, ce sont des événements qui sont récurrents, qui sont mineurs mais à la fois minimisés par les directions, mais qui sont bien réels et qui ont des conséquences sur l'environnement, la santé des travailleurs. Et on va donc laisser la parole à Jean-Pierre pour qu'il nous continue de nous expliquer un petit peu cette histoire locale de Civaux.
Alors pour terminer, on peut se poser la question de pourquoi il y a autant de centrales en France. Qu'est-ce qui fait que la France est le pays le plus nucléarisé du monde, proportionnellement au nombre d'habitants? Alors, est-ce que c'est parce que des dirigeants ont voulu que nous vivions dans le bien-être, nous donner la fée électricité, et qu'on n'aurait qu'à remercier ces nucléocrates? On s'aperçoit en fait que le nucléaire a joué un rôle essentiellement industriel dans la restructuration du capitalisme français après-guerre. On pourrait faire une émission entière là-dessus, mais on peut donner quand même quelques ouvertures. Après la guerre, le compromis entre le Parti communiste et le général et De Gaulle, pour quelques années, lance l'idée qu'il faut, en France, se spécialiser dans les industries à haute compétitivité. C'est quoi ? C'est l'automobile, c'est l'électronique, c'est la chimie, c'est l'armement et, spécificité de la France, le nucléaire. Pourquoi le nucléaire ? Eh bien parce que la France est en avance sur beaucoup d'autres pays sur la recherche nucléaire. On n'oublie pas que c'est la patrie de Pierre et Marie Curie d'avant-guerre qui ont été des pionniers en matière de recherche nucléaire, même si ce n'était pas directement du nucléaire militaire ou pour faire de l'électricité, et que Pierre et Marie Curie étaient aussi au Parti communiste. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Et donc, il y a une certaine avance technologique qui fait que le nucléaire fait partie de ces industries à haute compétitivité, en tout cas peut le devenir. Mais il le devient très vite, parce que en fait, l'économie française, après, dans les années 50-55, elle se construit autour du nucléaire, elle gravite autour du nucléaire. Et ça donne à la grande bourgeoisie française classique, celle qui dirigeait les Schneider, Péginet, Eugène Kuhlmann, Creuse-Loire, qui étaient les fleurons traditionnels de l'industrie française, la décision de développer le nucléaire leur donne un moyen d'accumulation du capital encore plus important, dans la mesure où c'est l'État qui, pendant 10 ans, va mettre de l'argent pour que la filière nucléaire se développe. Et donc, c'est des moyens frais, c'est de l'argent frais, c'est du capital qui va permettre de réinvestir pour se développer, sachant que le capitalisme ne peut pas ne pas se développer, sinon il crève. Et donc c'était une stratégie industrielle qui avait été menée à ce moment-là, et l'État, lui, se charge d'organiser ça, et il met en place des organismes comme le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, une entreprise qui s'appelle Framatome, qui maintenant n'existe plus parce que c'est devenu Areva et elle a fusionné avec le CEA entre-temps, etc., pour piloter industriellement et technologiquement ce cœur de l'industrie française qui était le nucléaire. Et alors, il va y avoir un changement dans le financement. Les premières centrales nucléaires, elles sont à refroidissement. On est toujours sur le refroidissement, bien entendu, puisque c'est quand même quelque chose de fondamental. Elles sont dites de graphite gaz. Elles sont refroidies par du gaz et de l'uranium et utilisées en uranium naturel comme combustible. À ce moment-là, il n'y a que trois centrales qui fonctionnent comme ça. Je pense que c'est Chinon, Belleville, je crois, et une troisième dont je ne me rappelle pas. Mais la production du nucléaire dont je viens de parler, ce noyau, il est essentiellement militaire. C'est le développement de la force de frappe, le développement de la bombe atomique, le sous-marin, etc. Il y a un tournant qui s'opère à partir de 1968. Il y a une nouvelle technologie qui se met en place et qui est dite à l'eau pressurisée et uranium enrichi. C'est l'origine de l'EPR, ça s'appelle le PWR. Le problème, c'est que pour construire cette nouvelle génération de centrales nucléaires, il a fallu acheter un brevet américain à l'usine Westinghouse. Et là, l'État intervient directement pour que la filière soit francisée. C'est-à-dire qu'à partir des brevets, on construise un appareil de production nucléaire purement français et au bénéfice de justement les Schneider, Pechiney, Gilles Kuhlmann, Creusot-Loire, qui eux forment le réseau satellitaire de la production nucléaire, les autres étant chargés de la production elle-même, de la construction des centrales. Il s'agit alors, à ce moment-là, essentiellement de produire de l'électricité. La force de frappe existe toujours, il faut l'entretenir, mais c'est surtout là que se développent les centrales. Donc on voit que les centrales nucléaires ont été un élément fondamental dans le redéploiement capitaliste de l'après-guerre, dans la construction. Et c'est l'arrivée de Giscard d'Estaing qui a marqué l'apogée de cette bourgeoisie que j'ai dit classique tout à l'heure, mais qu'on peut dire maintenant qu'elle est une bourgeoisie nucléaire, le cœur de la bourgeoisie française, de la grande bourgeoisie française industrielle, c'est le nucléaire. Et c'est toujours évidemment Wendel Schneider, mais aussi Ampin et la famille Giscard qui est alliée au Schneider. Creusot-Loire et Framatome sont adoubés alors par l'État comme les premiers constructeurs. Tout est mis en place et à ce moment-là, c'est plus l'État. Les structures mises en place vont être de véritables machines à faire du fric par le fait qu'elles sont aussi chargées de vendre la technologie. On a acheté la technologie à Westinghouse. Et maintenant, il s'agit de revendre l'outil tout construit à l'extérieur et d'en faire un outil compétitif. Et donc, le pouvoir politique a toujours été au cœur de cette restructuration, avec deux moments importants, le passage de la force de frappe du général de Gaulle à la construction des centrales et l'apogée des nouvelles centrales PWR par Giscard d'Estaing. Voilà. Donc on s'aperçoit bien là que c'est une question se développant, c'était une question d'intérêt du capitalisme français et pas de super intelligence pour améliorer le sort des gens. Le dernier point, c'est que ça tombait aussi très très bien, le PWR avec l'uranium enrichi, ça permettait d'utiliser les ex-colonies, qui n'étaient pas toujours ex, d'Afrique, parce que ça manque d'uranium. Donc la construction des centrales est liée complètement à la France-Afrique. Voilà, j'en ai terminé. On va passer peut-être à des brèves maintenant.
Stop !
À la liberté d'expression.
Point d'interrogation.
Avant, c'était une mercerie, là. C'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment tout, ils crassent tout, ils changent tout. On ne sait plus où c'est qu'on en est, quoi. Dès que c'est transformé, on oublie ce qui était avant.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça.
Voilà.
Pulsar.
Et on va retourner un petit peu dans le sud de Vienne pour les brèves, où je vais vous parler rapidement de la porcherie de Charroux. Du coup, autour de Charroux, des anciens opposants au projet d'enfouissement dont j'ai parlé tout à l'heure s'affrontent cette fois entre eux autour du projet de porcherie industrielle mais bio. Du coup, l'association d'opposants Assebic essaie de défendre sa vision du bio incompatible avec ce projet industriel qui parquerait 3 fois 2000 cochons par an. Du coup, des cochons nés en Bretagne et abattus aussi loin dans un abattoir d'Intermarché. En ce moment, c'est pour eux un peu compliqué comme combat à mener parce que c'est sur légalement, rien n'empêche les industriels de faire du bio de cette manière. Mais voilà, du coup, ils en sont à porter le projet devant le tribunal administratif et bon courage à eux.
Alors, pour d'autres brèves,
Pour d'autres brèves, on peut signaler, donc aujourd'hui il y aura l'AG des Gilets jaunes qui se tiendra sur l'îlot du Tison. Donc le mouvement se poursuit, sachant qu'à l'heure actuelle, selon l'ANR, on en est dans la Vienne à 28 interpellations depuis le début du mouvement, ce qui est à la fois assez peu, mais ce qui est à la fois beaucoup, puisque ça représente quand même des gens qui sont victimes de la répression politique et policière et judiciaire dans le cadre de leur implication sur le mouvement. Sur les brèves locales, on peut aussi signaler que plusieurs étudiants ont subi des sanctions d'exclusion suite à des tentatives de blocage. Donc on sait qu'on a un étudiant une étudiante qui elle sera exclue pendant 2 ans avec sursis, et 2 autres en fait qui ont 1 an d'exclusion avec sursis de l'université, dont 4 mois qui sont effectifs dès maintenant, ce qui fait que ces personnes ne pourront pas assister à leurs examens. Ni à leur rattrapage. Donc il y a vraiment aussi à l'université une politique en partie de répression sur des mouvements sociaux qu'il y a pu avoir assez récemment à l'université. Et on signalera aussi que le 3 mai, des gens de l'action non violente COP21, donc un mouvement écologiste qui s'était notamment construit dans le cadre de la COP21, l'antenne de Poitvine a fait une action le 3 mai, c'est-à-dire qu'ils ont décroché des portraits de Macron dans la mairie de Vouneuil-sous-Biard. Et il faut savoir que le 3 mai, 7 personnes sont parties en garde à vue, notamment pour vol qualifié. On n'a pas de nouvelles ou de suite par rapport à ces interpellations et ces gardes à vue. Néanmoins, voilà, il y a tout de même une répression qui s'opère, pareil, sur des militants écologistes qui, bien qu'ils s'inscrivent dans des actions non violentes, s'inscrivent aussi dans des actions de désobéissance civile et d'action directe. Donc, il y a aussi de la répression. Et comme dernière brève, on pourra citer aussi que à Bure, effectivement, sur ce projet de poubelle nucléaire dans l'est de la France, il y a toujours une lutte qui est sur place. En ce moment, il y a pas mal de répression depuis quelques temps, mais en tout cas, pour les gens que ça intéresse, tapez Bure et vous pourrez trouver différentes informations. Et on va finir en donnant la parole à Katrina afin qu'elle nous présente rapidement un ouvrage.
Toujours sur le sujet, vous pouvez lire « Village toxique » aux éditions Feu Bleu Bleu de Grégory Jarry et d'Otto T, qui retrace la lutte contre le projet d'enfouissement à Neuvy-Bouin dans les Deux-Sèvres. Et voilà.
C'est tout ce qu'on ajoutera. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, on va finir l'émission pour aujourd'hui. Normalement, on se retrouve le 31 mai, vendredi 31 mai, pour une émission sur le féminisme local, si tout va bien. Et puis, sinon, bonne continuation. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Au revoir.